ceux qui comptaient profiter de son insouciante tranquillité lui disaient « Vous êtes bien heureux, vous avez une femme froide, qui n'aura que des passions de tête, elle est contente de briller, ses fantaisies sont purement artistiques, sa jalousie, ses désirs seront satisfaits, si elle se fait un salon où elle réunira tous les beaux esprits, elle fera des débauches de musique, des orgies de littérature. » Et le mari de gober ces plaisanteries par lesquelles à Paris on mystifie les niais. Cependant Rochegude n'est pas un sot ordinaire. Il a de la vanité, de l'orgueil, autant qu'un homme d'esprit. Avec cette différence que les gens d'esprit se frottent de modestie et se font chat, ils vous caressent pour être caressés, tandis que Rochegude a un bon gros amour-propre rouge et frais qui s'admire en public et sourit toujours. Sa vanité se vautre à l'écurie et se nourrit à grand bruit au râtelier en tirant son fourrage. Il a de ces défauts qui ne sont connus que des gens à même de les juger dans l'intimité, qui ne frappent que dans l'ombre et le mystère de la vie privée, tandis que dans le monde et pour le monde, un homme paraît charmant. Rochegude devait être insupportable dès qu'il se croirait menacé dans ses foyers, car il a cette jalousie louche et mesquine, brutale quand elle est surprise, lâche pendant 6 mois, meurtrière le 7e. Il croyait tromper sa femme et il la redoutait, deux causes de tyrannie, le jour où il s'apercevrait que la marquise lui faisait la charité de paraître indifférente à ses infidélités. Je vous analyse ce caractère afin d'expliquer la conduite de Béatrix. La marquise a eu pour moi la plus vive admiration, mais de l'admiration à la jalousie, il n'y a qu'un pas. J'ai l'un des salons les plus remarquables de Paris. Elle désirait s'en faire un et tâchait de me prendre bon monde. Je ne sais pas garder ceux qui veulent me quitter. Elle a eu les gens superficiels qui sont amis de tout le monde par oisiveté, dont le but est de sortir d'un salon dès qu'ils y sont entrés, mais elle n'a pas eu le temps de fonder une société. Dans ce temps-là, je l'ai cru dévorée du désir d'une célébrité quelconque. Néanmoins, elle a de la grandeur d'âme, une fierté royale, des idées, une facilité merveilleuse à concevoir et à comprendre tout. Elle parlera métaphysique et musique, théologie et peinture. Vous la verrez femme, ce que nous l'avons vue jeune mariée, mais il y a chez elle un peu d'affectation. Elle a trop l'air de savoir les choses difficiles, le chinois ou l'hébreu, de se douter des hiéroglyphes ou de pouvoir expliquer les papyrus qui enveloppent les momies. Béatrix est une de ces blondes, auprès desquelles la blonde Ève paraîtrait une négresse. Elle est mince et droite comme un cierge et blanche comme une hostie. Elle a une figure longue et pointue, un teint assez journalier, aujourd'hui couleur percale, demain bisse et tachée sous la peau de 1000 points comme si le sang avait charrié de la poussière pendant la nuit. Son front est magnifique mais un peu trop audacieux. Ses prunelles sont vert de mer, pâles, et nagent dans le blanc sous des sourcils faibles, sous des paupières paresseuses. Elle a souvent les yeux cernés. Son nez, qui décrit un quart de cercle, est pincé des narines et plein de finesse, mais impertinent. Elle a la bouche autrichienne, la lèvre supérieure est plus forte que l'inférieure, qui tombe d'une façon dédaigneuse. Ses joues pâles ne se colorent que par une émotion très vive. Son menton est assez gras, le mien n'est pas mince, et peut-être ai-je tort de vous dire que les femmes à menton gras sont exigeantes en amour. Elle a une des plus belles tailles que j'ai vues. Un dos d'une étincelante blancheur, autrefois très plat, et qui maintenant s'est, dit-on, développé, rembourré. Mais le corsage n'a pas été aussi heureux que les épaules. Les bras sont restés maigres. Elle a d'ailleurs une tournure et des manières dégagées qui rachètent ce qu'elle peut avoir de défectueux et mettent admirablement en relief ses beautés. La nature lui a donné cet air de princesse qui ne s'acquiert point, qui lui sied et révèle soudain la femme noble en harmonie d'ailleurs avec des hanches grêles, mais du plus délicieux contour, avec le plus joli pied du monde, avec cette abondante chevelure d'ange que le pinceau de Girodet a tant cultivée et qui ressemble à des flots de lumière. Sans être irréprochablement belle ni jolie, elle produit quand elle le veut des impressions ineffaçables. Elle n'a qu'à se mettre en velours cerise avec des bouillons de dentelle, à se coiffer de roses rouges, elle est divine. Si par un artifice quelconque, elle pouvait porter le costume du temps où les femmes avaient des corsets pointus à échelle de rubans s'élançant minces et frêles de l'ampleur étoffée des jupes en brocart, à plis soutenus et puissants où elles s'entouraient de fraises goudronnées, cachaient leurs bras dans des manches à crever à sabots de dentelle, d'où la main sortait comme le pistil d'un calice et qu'elles rejetaient les 1000 boucles de leur chevelure au-delà d'un chignon ficelé de pierreries, Béatrice lutterait avantageusement avec les beautés idéales que vous voyez vêtues ainsi. Félicité montrait à Calyste une belle copie du tableau de Mieris où se voit une femme en satin blanc, debout, tenant un panier, et chantant avec un seigneur brabançon, pendant qu'un nègre verse dans un verre à pâte du vieux vin d'Espagne, et qu'une vieille femme de charge arrange les biscuits. Les blondes, reprit-elle, ont sur nous autres femmes brunes l'avantage d'une précieuse diversité. Il y a 100 manières d'être blonde, et il n'y en a qu'une d'être brune. Les blondes sont plus femmes que nous. Nous ressemblons trop aux hommes, nous autres brunes françaises. Eh bien, dit-elle, n'allez-vous pas tomber amoureux de Béatrix sur le portrait que je vous en fais, absolument comme je ne sais quel prince des mille et un jours? Tu arriverais encore trop tard, mon pauvre enfant. Mais console-toi, c'est là au premier venu les os. Ces paroles furent dites avec intention. L'admiration peinte sur le visage du jeune homme était plus excitée par la peinture que par le peintre dont le fer manquait de son but. En parlant, Félicité déployait les ressources de son éloquente physionomie. Malgré son état de blonde, continua-t-elle, Béatrix n'a pas la finesse de sa couleur. Elle a de la sévérité dans les lignes, elle est élégante et dure, elle a la figure d'un dessin sec, et l'on dirait que dans son âme, il y a des ardeurs méridionales. C'est un ange qui flambe et se dessèche. Enfin, ses yeux ont soif. Ce qu'elle a de mieux est la face. De profil, sa figure a l'air d'avoir été prise entre deux portes. Vous verrez si je me suis trompée. Voici ce qui nous a rendus amis intimes. Pendant 3 ans de 1828 à 1831, Béatrix, en jouissant des dernières fêtes de la Restauration, en voyageant à travers les salons, en allant à la cour, en ornant les bals costumés de l'Élysée Bourbon, jugeait les hommes, les choses, les événements et la vie de toute la hauteur de sa pensée. Elle eut l'esprit occupé. Ce premier moment d'étourdissement causé par le monde empêcha son cœur de se réveiller, et il fut encore engourdi par les premières malices du mariage, l'enfant, les couches et ce trafic de maternité que je n'aime point. Je ne suis point femme de ce côté-là. Les enfants me sont insupportables, ils donnent 1000 chagrins et des inquiétudes constantes. Aussi trouvais-je qu'un des grands bénéfices de la société moderne, et dont nous avions été privés par cet hypocrite de Jean-Jacques, était de nous laisser libres d'être ou de ne pas être mère. Si je ne suis pas seule à penser ainsi, je suis seule à le dire. Béatrix alla de 1830 à 1831 passer la tourmente à la terre de son mari et s'y ennuya comme un saint dans sa stalle au paradis. À son retour à Paris, la marquise jugea peut-être avec justesse que la révolution, apparence purement politique aux yeux de certaines gens, allait être une révolution morale. Le monde auquel elle appartenait n'ayant pu se reconstituer pendant le triomphe inespéré des 15 années de la Restauration, s'en irait en miettes sous les coups de bélier mis en œuvre par la bourgeoisie. Cette grande parole de Monsieur l'aîné, « Les rois s'en vont », elle l'avait entendue. Cette opinion, je le crois, n'a pas été sans influence sur sa conduite. Elle prit une part intellectuelle aux nouvelles doctrines qui pullulent l'air pendant 3 ans, après juillet, comme des moucherons au soleil, et qui ravagèrent plusieurs têtes femelles. Mais comme tous les nobles, en trouvant ces nouveautés superbes, elle voulait sauver la noblesse. Ne voyant plus de place pour les supériorités personnelles, voyant la haute noblesse recommencer l'opposition muette qu'elle avait faite à Napoléon, ce qui était son seul rôle sous l'empire de l'action et des faits, mais ce qui, dans une époque morale, équivaut à donner sa démission, elle préféra le bonheur à ce mutisme. Quand nous respirâmes un peu, la marquise trouva chez moi l'homme avec qui je croyais finir ma vie, Gennaro Conti, le grand compositeur, d'origine napolitaine, mais né à Marseille. Conti a beaucoup d'esprit. Il a du talent comme compositeur, quoiqu'il ne puisse jamais arriver au premier rang. Sans Meyerbeer et Rossini, peut-être eût-il passé pour un homme de génie. Il a sur eux un avantage. Il est en musique vocale ce qu'est Paganini sur le violon, Liszt sur le piano, Taglioni dans la danse, et ce qu'était enfin le fameux Gara qu'il rappelle à ceux qui l'ont entendu. Ce n'est pas une voix, mon ami, c'est une âme. Quand ce chant répond à certaines idées, à des dispositions difficiles à peindre et dans lesquelles se trouve parfois une femme, elle est perdue en entendant Gennaro. La marquise conçut pour lui la plus folle passion et me l'enleva. Le trait est excessivement provincial, mais de bonne guerre. Elle conquit mon estime et mon amitié par la manière dont elle s'y prit avec moi. Je lui paraissais femme à défendre mon bien. Elle ne savait pas que pour moi la chose au monde la plus ridicule dans cette position est l'objet même de la lutte. Elle vint chez moi. Cette femme si fière était tant éprise qu'elle me livra son secret et me rendit l'arbitre de sa destinée. Elle fut adorable, elle resta femme et marquise à mes yeux. Je vous dirai, mon ami, que les femmes sont parfois mauvaises, mais elles ont des grandeurs secrètes que jamais les hommes ne sauront apprécier. Ainsi, comme je puis faire mon testament de femme au bord de la vieillesse qui m'attend, je vous dirai que j'étais fidèle à Conti, que je l'eusse été jusqu'à la mort, et que cependant je le connaissais. C'est une nature charmante en apparence et détestable au fond. Il est charlatan dans les choses du cœur. Il se rencontre des hommes, comme Nathan, de qui je vous ai déjà parlé, qui sont charlatans d'extérieur et de bonne foi. Ces hommes se mentent à eux-mêmes. Montés sur leurs échasses, ils croient être sur leurs pieds et font leur jonglerie avec une sorte d'innocence. Leur vanité est dans leur sang. Ils sont nés comédiens, vantards, extravagants de forme, comme un vase chinois. Ils riront peut-être d'eux-mêmes. Leur personnalité est d'ailleurs généreuse et, comme l'éclat des vêtements royaux de Murat, elle attire le danger. Mais la fourberie de Conti ne sera jamais connue que de sa maîtresse. Il a dans son art la célèbre jalousie italienne qui porta le Carlone à assassiner Piola, qui valut un coup de stylet à Paesiello. Cette envie terrible est cachée sous la camaraderie la plus gracieuse. Conti n'a pas le courage de son vice. Il sourit à Meyerbeer et le complimente quand il voudrait le déchirer. Il sent sa faiblesse et se donne les apparences de la force. Puis il est d'une vanité qui lui fait jouer les sentiments les plus éloignés de son cœur. Il se donne pour un artiste qui reçoit ses inspirations du ciel. Pour lui, l'art est quelque chose de saint et de sacré. Il est fanatique. Il est sublime de moquerie avec les gens du monde. Il est d'une éloquence qui semble partir d'une conviction profonde. C'est un voyant, un démon, un dieu, un ange. Enfin, quoique prévenu Caliste, vous serez sa dupe. Cet homme méridional, cet artiste bouillant, est froid comme une corde à puits. Écoutez-le. L'artiste est un missionnaire, l'art est une religion qui a ses prêtres et doit avoir ses martyrs. Une fois parti, Gennaro arrive au pathos le plus échevelé que jamais professeur de philosophie allemande ait dégurgité à son auditoire. Vous admirez ses convictions? Il ne croit à rien. En vous enlevant au ciel par un chant qui semble un fluide mystérieux et qui verse l'amour, il jette sur vous un regard extatique, mais il surveille votre admiration. Il se demande « Suis-je bien un dieu pour eux ?» Au même moment, parfois, il se dit en lui-même « J'ai mangé trop de macaroni ». Vous vous croyez aimé, il vous hait, et vous ne savez pourquoi. Mais je le savais, moi. Il avait vu la veille une femme, il l'aimait par caprice, et m'insultait de quelques faux amours, de caresses hypocrites, en me faisant payer cher sa fidélité forcée. Enfin, il est insatiable d'applaudissements. Il singe tout et se joue de tout. Il feint la joie aussi bien que la douleur, mais il réussit admirablement. Il plaît, on l'aime, il peut être admiré quand il le veut. Je l'ai laissé haïssant sa voix. Il lui devait plus de succès qu'à son talent de compositeur, et il préfère être homme de génie comme Rossini à être un exécutant de la force de Rubini. J'avais fait la faute de m'attacher à lui. J'étais résigné à parer cette idole jusqu'au bout. Conti, comme beaucoup d'artistes, est friand. Il aime ses aises, ses jouissances. Il est coquet, recherché, bien mis. Eh bien, je flattais toutes ses passions. J'aimais cette nature faible et astucieuse. J'étais enviée et je souriais parfois de pitié. J'estimais son courage. Il est brave et la bravoure est, dit-on, la seule vertu qui n'est pas d'hypocrisie. En voyage, dans une circonstance, je l'ai vu à l'épreuve. Il a su risquer une vie qu'il aime, mais, chose étrange, à Paris, je lui ai vu commettre ce que je nomme des lâchetés de pensée. Mon ami, je savais toutes ces choses. Je dis à la pauvre marquise, « Vous ne savez dans quel abîme vous mettez le pied. Vous êtes le percé d'une pauvre Andromède. Vous me délivrez de mon rocher. S'il vous aime, tant mieux. Mais j'en doute, il n'aime que lui. » Gennaro fut au septième ciel de l'orgueil. Je n'étais pas marquise, je ne suis pas née Casteran. Je fus oubliée en un jour. Je me donnais le sauvage plaisir d'aller au fond de cette nature. Sûr du dénouement, je voulus observer les détours que ferait Conti. Mon pauvre enfant, je vis en une semaine des horreurs de sentiments, des pantalonnades infâmes. Je ne veux rien vous en dire, vous verrez cet homme ici. Seulement, comme il sait que je le connais, il me hait aujourd'hui. S'il pouvait me poignarder avec quelque sécurité, je n'existerais pas deux secondes. Je n'ai jamais dit un mot à Béatrix. La dernière et constante insulte de Gennaro est de croire que je suis capable de communiquer mon triste savoir à la marquise. Il est devenu sans cesse inquiet, rêveur, car il ne croit aux bons sentiments de personne. Il joue encore avec moi le personnage d'un homme malheureux de m'avoir quitté. Vous trouverez en lui les cordialités les plus pénétrantes. Il est caressant, il est chevaleresque. Pour lui, toute femme est une madone. Il faut vivre longtemps avec lui pour avoir le secret de cette fausse bonhomie et connaître le stylet invisible de ses mystifications. Son air convaincu tromperait Dieu. Aussi serez-vous enlacé par ses manières chattes et ne croirez-vous jamais à la profonde et rapide arithmétique de sa pensée intime. Laissons-le. Je poussai l'indifférence jusqu'à les recevoir chez moi. Cette circonstance fit que le monde le plus perspicace, le monde parisien, ne sut rien de cette intrigue. Quoique Gennaro fût ivre d'orgueil, il avait besoin sans doute de se poser devant Béatrix. Il fut d'une admirable dissimulation. Il me surprit. Je m'attendais à le voir demandant un éclat. Ce fut la marquise qui se compromit après un an de bonheur soumis à toutes les vicissitudes, à tous les hasards de la vie parisienne. À la fin de l'avant-dernier hiver, elle n'avait pas vu Gennaro depuis plusieurs jours et je l'avais invitée à dîner chez moi où elle devait venir dans la soirée. Rochegude ne se doutait de rien, mais Béatrix connaissait si bien son mari qu'elle aurait préféré, me disait-elle souvent, les plus grandes misères à la vie qu'il attendait auprès de cet homme, dans le cas où il aurait le droit de la mépriser ou de la tourmenter. J'avais choisi le jour de la soirée de notre amie la comtesse de Montcornet. Après avoir vu le café servi à son mari, Béatrix quitta le salon pour aller s'habiller, quoiqu'elle ne commençât jamais sa toilette de si bonne heure. « Votre coiffeur n'est pas venu ?» lui fut observé Rochegude quand il sut le motif de la retraite de sa femme. « Thérèse me coiffera, » répondit-elle. « Mais où allez-vous donc? Vous n'allez pas chez Madame de Montcornet à 8 heures ?»« Non, » dit-elle, « mais j'entendrai le premier acte aux Italiens. » L'interrogeant bailli du Huron, dans Voltaire, est un muet en comparaison des maris oisifs. Béatrix s'enfuit pour ne pas être questionnée davantage et n'entendit pas son mari qui lui répondait « Eh bien, nous irons ensemble !» Il n'y mettait aucune malice, il n'avait aucune raison de soupçonner sa femme, elle avait tant de liberté. Il s'efforçait de ne la gêner en rien, il y mettait de l'amour-propre. La conduite de Béatrix n'offrait d'ailleurs pas la moindre prise à la critique la plus sévère. Le marquis comptait aller je ne sais où, chez sa maîtresse peut-être. Il s'était habillé avant le dîner, il n'avait qu'à prendre ses gants et son chapeau, lorsqu'il entendit rouler la voiture de sa femme dans la cour sous la marquise du Perron. Il passa chez elle et la trouva prête, mais dans le dernier étonnement de le voir. « Où allez-vous ? » lui demanda-t-elle. « Ne vous ai-je pas dit que je vous accompagnais aux Italiens ?» La marquise réprima les mouvements extérieurs d'une violente contrariété, mais ses joues prirent une teinte de rose vif comme si elle eût mis du rouge. « Eh bien, partons, » dit-elle. Rochegude la suivit sans prendre garde à l'émotion trahie par la voix de sa femme, que dévorait la colère la plus concentrée. « Aux Italiens ? » dit le mari. « Non, s'écria Béatrix, chez Mademoiselle des Touches. J'ai quelques mots à lui dire, reprit-elle, quand la portière fut fermée. La voiture partit. « Mais, si vous le vouliez, reprit Béatrix, je vous conduirai d'abord aux Italiens et j'irai chez elle après. « Non, répondit le marquis, si vous n'avez que quelques mots à lui dire, j'attendrai dans la voiture, il est 7h30. » Si Béatrix avait dit à son mari « Allez aux Italiens et laissez-moi tranquille », il aurait paisiblement obéi. Comme toute femme d'esprit, elle eut peur d'éveiller ses soupçons en se sentant coupable et se résigna. Quand elle voulut quitter les Italiens pour venir chez moi, son mari l'accompagna. Elle entra rouge de colère et d'impatience. Elle vint à moi et me dit à l'oreille de l'air le plus tranquille du monde. « Ma chère Félicité, je partirai demain soir avec Conti pour l'Italie. Priez-le de faire ses préparatifs et d'être avec une voiture et un passeport ici. » Elle partit avec son mari. Les passions violentes veulent à tout prix leur liberté. Béatrix souffrait depuis un an de sa contrainte et de la rareté de ses rendez-vous. Elle se regardait comme unie à Gennaro. Ainsi, rien ne me surprit. À sa place, avec mon caractère, j'eusse agi de même. Elle se résolut à cet éclat en se voyant contrariée de la manière la plus innocente. Elle prévint le malheur par un malheur plus grand. Conti fut d'un bonheur qui me navra. Sa vanité seule était en jeu. « C'est être aimé, cela !» me dit-il au milieu de ses transports. « Combien peu de femmes sauraient perdre ainsi toute leur vie, leur fortune, leur considération ?»« Oui, elle vous aime, lui dis-je, mais vous ne l'aimez pas. » Il devint furieux et me fit une scène. Il pérora, me querella, me peignit son amour en disant qu'il n'avait jamais cru qu'il lui serait possible d'aimer autant. Je fus impassible et lui prêtai l'argent dont il pouvait avoir besoin pour ce voyage qui le prenait au dépourvu. Béatrix laissa pour Rochegude une lettre et partit le lendemain soir en Italie. Elle y est restée 18 mois. Elle m'a plusieurs fois écrit. Ses lettres sont ravissantes d'amitié. La pauvre enfant s'est attachée à moi comme à la seule femme qui la comprenne. Elle m'adore, dit-elle. Le besoin d'argent a fait faire un opéra français à Gennaro, qui n'a pas trouvé en Italie les ressources pécuniaires qu'ont les compositeurs à Paris. Voici la lettre de Béatrix. Vous pourrez maintenant la comprendre. Si à votre âge, on peut analyser déjà les choses du cœur, dit-elle en lui tendant la lettre. En ce moment, Claude Vignon entra. Cette apparition inattendue rendit pendant un moment Calyste et Félicité silencieux, elle par surprise, lui par inquiétude vague. Le front immense, haut et large de ce jeune homme chauve à 37 ans semblait obscurci de nuages. Sa bouche ferme et judicieuse exprimait une froide ironie. Claude Vignon est imposant, malgré les dégradations précoces d'un visage autrefois magnifique et devenu livide. Entre 18 et 25 ans, il a ressemblé presque au divin Raphaël, mais son nez, ce trait de la face humaine qui change le plus, s'est taillé en pointe, mais sa physionomie s'est tassée, pour ainsi dire sous de mystérieuses dépressions. Les contours ont acquis une plénitude d'une mauvaise couleur, les tons de plomb dominent dans le teint fatigué, sans qu'on connaisse les fatigues de ce jeune homme, vieilli peut-être par une amère solitude et par les abus de la compréhension. Il scrute la pensée d'autrui, sans but ni système. Le pic de sa critique démolit toujours et ne construit rien. Ainsi sa lassitude est celle du manœuvre et non celle de l'architecte. Les yeux d'un bleu pâle, brillant jadis, ont été voilés par des peines inconnues ou ternis par une tristesse morne. La débauche a estompé le dessus des sourcils d'une teinte noirâtre. Les tempes ont perdu de leur fraîcheur. Le menton, d'une incomparable distinction, s'est doublé sans noblesse. Sa voix déjà peu sonore affaiblit. Sans être ni éteinte ni enrouée, elle est entre l'enrouement et l'extinction. L'impassibilité de cette belle tête, la fixité de ce regard couvre une irrésolution, une faiblesse que trahit un sourire spirituel et moqueur. Cette faiblesse frappe sur l'action et non sur la pensée. Il y a les traces d'une compréhension encyclopédique sur ce front, dans les habitudes de ce visage enfantin et superbe à la fois. Il est un détail qui peut expliquer les bizarreries du caractère. L'homme est d'une haute taille, légèrement voûté déjà, comme tous ceux qui portent un monde d'idées. Jamais ces grands longs corps n'ont été remarquables par une énergie continue, par une activité créatrice. Charlemagne, Narsès, Bélisaire et Constantin sont en ce genre des exceptions excessivement remarquées. Certes, Claude Vignon offre des mystères à deviner. D'abord, il est très simple et très fin tout ensemble. Quoiqu'il tombe avec la facilité d'une courtisane dans les excès, sa pensée demeure inaltérable. Cette intelligence, qui peut critiquer les arts, la science, la littérature, la politique, est inhabile à gouverner la vie extérieure. Claude se contemple dans l'étendue de son royaume intellectuel et abandonne sa forme avec une insouciance diogénique. Satisfait de tout pénétrer, de tout comprendre, il méprise les matérialités. Mais, atteint par le doute dès qu'il s'agit de créer, il voit les obstacles sans être ravi des beautés, et à force de discuter les moyens, il demeure les bras pendants. Sans résultat. C'est le turc de l'intelligence endormi par la méditation. La critique est son opium et son harem de livres faits l'a dégoûté de toute œuvre à faire. Indifférent aux plus petites comme aux plus grandes choses, il est obligé par le poids même de sa tête de tomber dans la débauche pour abdiquer pendant quelques instants le fatal pouvoir de son omnipotente analyse. Il est trop préoccupé par l'envers du génie et vous pouvez maintenant concevoir que Camille Maupin essaya de le mettre à l'endroit. Cette tâche était séduisante. Claude Vignon se croyait aussi grand politique que grand écrivain, mais ce Machiavel inédit se rit en lui-même des ambitieux. Il sait tout ce qu'il peut, il prend instinctivement mesure de son avenir sur ses facultés, il se voit grand, il regarde les obstacles, pénètre la sottise des parvenus, s'effraie ou se dégoûte et laisse le temps s'écouler sans se mettre à l'œuvre. Comme Étienne Lousteau, le feuilletoniste, comme Nathan, le célèbre auteur dramatique, comme Blondet, autre journaliste, il est sorti du sein de la bourgeoisie, à laquelle on doit la plupart des grands écrivains. « Par où donc êtes-vous venu ? » lui dit Mademoiselle Destouches, surprise et rougissant de bonheur ou de surprise. « Par la porte, » dit sèchement Claude Vignon. « Mais, » s'écria-t-elle en haussant les épaules, « je sais bien que vous n'êtes pas homme à entrer par une fenêtre. » L'escalade est une espèce de croix d'honneur pour les femmes aimées. « Assez, » dit Félicité. « Je vous dérange, » dit Claude Vignon. « Monsieur, » dit le naïf Calyste, « cette lettre, gardez-la, je ne demande rien, à nos âges, ces choses-là se comprennent, » dit-il d'un air moqueur en interrompant Calyste. « Mais, monsieur, » dit Calyste indigné, « calmez-vous, jeune homme, je suis d'une indulgence excessive pour les sentiments. »« Mon cher Calyste, » dit Camille en voulant parler, « cher, » dit Vignon qui l'interrompit. « Claude plaisante, » dit Camille en continuant de parler à Calyste, « il a tort avec vous qui ne connaissez rien aux mystifications parisiennes. » « Je ne savais pas être plaisant, » répliqua Vignon d'un air grave. « Par quel chemin êtes-vous venu? Voilà 2 heures que je ne cesse de regarder dans la direction du Croisic. Vous ne regardiez pas toujours, répondit Vignon. Vous êtes insupportable dans vos railleries. Je raille? Calliste se leva. Vous n'êtes pas assez mal ici pour vous en aller, lui dit Vignon. Au contraire, dit le bouillant jeune homme, à qui Camille Maupin tendit sa main qu'il baisa au lieu de la serrer, en y laissant une larme brûlante. Je voudrais être ce petit jeune homme, dit le critique en s'asseyant et prenant le bout du houka. Comme il aimera. Trop, car alors il ne sera pas aimé, dit Mademoiselle des Touches. Madame de Rochegude arrive ici. Bon, fit Claude, avec Conti? Elle y restera seule, mais il l'accompagne. Il y a de la brouille? Non. Jouez-moi une sonate de Beethoven. Je ne connais rien de la musique qu'il a écrite pour le piano. Claude se mit à charger de tabac turc la cheminée du houka, en examinant Camille beaucoup plus qu'elle ne le croyait. Une pensée horrible l'occupait. Il se croyait pris pour dupe par une femme de bonne foi. Cette situation était neuve. Calliste, en s'en allant, ne pensait plus à Béatrix de Rochegude, ni à sa lettre. Il était furieux contre Claude Vignon. Il se courrouçait de ce qu'il prenait pour de l'indélicatesse. Il plaignait la pauvre Félicité. Comment être aimé de cette sublime femme et ne pas l'adorer à genoux, ne pas la croire sur la foi d'un regard ou d'un sourire? Après avoir été le témoin privilégié des douleurs que causait l'attente à Félicité, l'avoir vue tournant la tête vers le Croisic, il s'était senti l'envie de déchirer ce spectre pâle et froid, ignorant, comme le lui avait dit Félicité, les mystifications de pensée auxquelles excellent les railleurs de la presse. Pour lui, l'amour était une religion humaine. En l'apercevant dans la cour, sa mère ne put retenir une exclamation de joie, et aussitôt la vieille Mademoiselle du Guénic siffla Mariotte. « Mariotte, voici l'enfant, mets la lubine !»« Je l'ai vue, mademoiselle, » répondit la cuisinière. La mère, un peu inquiète de la tristesse qui siégeait sur le front de Calliste, sans se douter qu'elle était causée par le prétendu mauvais traitement de Vignon envers Félicité, se mit à sa tapisserie. La vieille tante prit son tricot. Le baron donna son fauteuil à son fils et se promena dans la salle comme pour se dérouiller les jambes avant d'aller faire un tour au jardin. Jamais tableau flamand ou hollandais n'a représenté d'intérieur d'un ton si brun, meublé de figures si harmonieusement suaves. Ce beau jeune homme vêtu de velours noir, cette mère encore si belle, et les 2 vieillards encadrés dans cette salle antique, exprimaient les plus touchantes harmonies domestiques. Fanny aurait bien voulu questionner Calliste, mais il avait tiré de sa poche cette lettre de Béatrix qui peut-être allait détruire tout le bonheur dont jouissait cette noble famille. En la dépliant, la vive imagination de Calliste lui montra la marquise vêtue comme la lui avait fantastiquement dépeinte Camille Maupin. Lettre de Béatrix à Félicité, Gênes, le 2 juillet. Je ne vous ai pas écrit depuis notre séjour à Florence, chère amie, mais Venise et Rome ont absorbé mon temps, et vous le savez, le bonheur tient de la place dans la vie. Nous n'en sommes ni l'une ni l'autre à une lettre de plus ou de moins. Je suis un peu fatiguée. J'ai voulu tout voir, et quand on n'a pas l'âme facile à blaser, la répétition des jouissances cause de la lassitude. Notre ami a eu de beaux triomphes à la Scala, à la Fénice et ses jours derniers à Saint-Charles. 3 opéras italiens en 18 mois. Vous ne direz pas que l'amour le rend paresseux. Nous avons été partout accueillis à merveille, mais j'eusse préféré le silence et la solitude. N'est-ce pas la seule manière d'être qui convienne à des femmes en opposition directe avec le monde? Je croyais qu'il en serait ainsi. L'amour, ma chère, est un maître plus exigeant que le mariage, mais il est si doux de lui obéir. Après avoir fait de l'amour toute ma vie, je ne savais pas qu'il faudrait revoir le monde, même par échapper, et les soins dont on m'y a entouré étaient autant de blessures. Je n'y étais plus sur un pied d'égalité avec les femmes les plus élevées. Plus on me marquait d'égard, plus on étendait mon infériorité. Gennaro n'a pas compris ses finesses, mais il était si heureux que j'aurais eu mauvaise grâce à ne pas immoler de petites vanités à une aussi grande chose que la vie d'un artiste. Nous ne vivons que par l'amour, tandis que les hommes vivent par l'amour et par l'action, autrement ils ne seraient pas hommes. Cependant, il existe pour nous autres femmes de grands désavantages dans la position où je me suis mise, et vous les aviez évités. Vous étiez restée grande en face du monde, qui n'avait aucun droit sur vous. Vous aviez votre libre arbitre, et je n'ai plus le mien. Je ne parle de ceci que relativement aux choses du cœur, et non aux choses sociales, desquelles j'ai fait un entier sacrifice. Vous pouviez être coquette et volontaire, avoir toutes les grâces de la femme qui aime et peut tout accorder ou tout refuser à son gré. Vous aviez conservé le privilège des caprices, même dans l'intérêt de votre amour et de l'homme qui vous plaisait. Enfin, aujourd'hui, vous avez encore votre propre aveu. Moi, je n'ai plus la liberté du cœur, que je trouve toujours délicieuse à exercer en amour, même quand la passion est éternelle. Je n'ai pas ce droit de quereller en riant, auquel nous tenons tant et avec tant de raison. N'est-ce pas la sonde avec laquelle nous interrogeons le cœur? Je n'ai pas une menace à faire, je dois tirer tous mes attraits d'une obéissance et d'une douceur illimitée. Je dois imposer par la grandeur de mon amour. J'aimerais mieux mourir que de quitter Gennaro, car mon pardon est dans la sainteté de ma passion. Entre la dignité sociale et ma petite dignité, qui est un secret pour ma conscience, je n'ai pas hésité. Si j'ai quelques mélancolies semblables à ces nuages qui passent sur les cieux les plus purs, et auxquels nous autres femmes nous aimons à nous livrer, je les tais. Elles ressembleraient à des regrets. Mon Dieu, j'ai si bien aperçu l'étendue de mes obligations que je me suis armée d'une indulgence entière, mais jusqu'à présent, Gennaro n'a pas effarouché ma si susceptible jalousie. Enfin, je n'aperçois point par où ce cher beau génie pourrait faillir. Je ressemble un peu, cher ange, à ces dévots qui discutent avec leur Dieu, car n'est-ce pas à vous que je dois mon bonheur? Aussi ne pouvez-vous douter que je pense souvent à vous. J'ai vu l'Italie, enfin, comme vous l'avez vue, comme on doit la voir, éclairée dans notre âme par l'amour, comme elle l'est par son beau soleil et par ses chefs-d'œuvre. Je plains ceux qui sont incessamment remués par les adorations qu'elle réclame à chaque pas, de ne pas avoir une main à serrer, un cœur où jeter l'exubérance des émotions qui s'y calment en s'y agrandissant. Ces 18 mois sont pour moi toute ma vie, et mon souvenir y fera de riches moissons. N'avez-vous pas fait comme moi le projet de demeurer à Chiavari, d'acheter un palais à Venise, une maisonnette à Sorrente, à Florence, une villa? Toutes les femmes aimantes ne craignent-elles pas le monde? Mais moi, jetée pour toujours en dehors de lui, ne devais-je pas souhaiter de m'ensevelir dans un beau paysage, dans un monceau de fleurs, en face d'une jolie mer ou d'une vallée qui vaille la mer, comme celle qu'on voit de Fiesole? Mais hélas, nous sommes de pauvres artistes, et l'argent ramène à Paris les deux bohémiens. Gennaro ne veut pas que je m'aperçoive d'avoir quitté mon luxe, et vient faire répéter à Paris une œuvre nouvelle, un grand opéra. Vous comprenez aussi bien que moi, mon bel ange, que je ne saurais mettre le pied dans Paris. Au prix de mon amour, je ne voudrais pas rencontrer un de ces regards de femme ou d'homme qui me feraient concevoir l'assassinat. Oui, je hacherais en morceaux quiconque m'honorerait de sa pitié, me couvrirait de sa bonne grâce, comme cet adorable Châteauneuf, laquelle, sous Henri III, je crois, a poussé son cheval et foulé aux pieds le prévôt de Paris pour un crime de ce genre. Je vous écris donc pour vous dire que je ne tarderai pas à venir vous retrouver aux touches, y attendre dans cette chartreuse notre Gennaro. Vous voyez comme je suis hardie avec ma bienfaitrice et ma sœur. Mais c'est que la grandeur des obligations ne me mènera pas, comme certains cœurs, à l'ingratitude. Vous m'avez tant parlé des difficultés de la route que je vais essayer d'arriver au Croisic par mer. Cette idée m'est venue en apprenant ici qu'il y avait un petit navire danois déjà chargé de marbre qui va y prendre du sel en retournant dans la Baltique. J'évite par cette voie la fatigue et les dépenses du voyage par la poste. Je sais que vous n'êtes pas seule, et j'en suis bien heureuse. J'avais des remords à travers mes félicités. Vous êtes la seule personne auprès de laquelle je pouvais être seule et sans conti. Ne sera-ce pas pour vous aussi un plaisir que d'avoir auprès de vous une femme qui comprendra votre bonheur sans en être jalouse? Allons, à bientôt. Le vent est favorable, je pars en vous envoyant un baiser.